Alors ça n'intéresse pas tellement ces types-là, à part pour se divertir un soir ou deux, pour se délasser du temps qu'elle consacre à ses études. Elle a 25 ans et prolonge tant qu'elle peut une adolescence difficile et magnifique, parce que ces années auront été celles de sa vie où elle aura été la plus libre, la plus engagée aussi. Elle est de gauche, à la fois par conviction et parce que son père lui a donné le goût de la justice, du combat, d'une certaine forme de militantisme. Pour autant, elle a hérité de ses grands-parents russes une vraie méfiance envers le communisme et l'idée égalitaire. Elle ne croit pas en Mitterrand. Elle pense souvent que c'est une bonne chose que son père soit mort juste après la victoire des socialistes en 1981. Il n'a pas eu le temps d'être déçu. Souvent, elle pense à ce que son père lui dirait. Elle essaie de poser ses pas dans ce qu'il prendrait, selon ce qu'elle imagine. Pour sa génération, le grand combat, c'est la lutte contre Le Pen, le Front National, les idées de rejet qui montent dans ces années-là. Elle est de toutes les manifs et, depuis une dizaine d'années, il y en a beaucoup. Militante contre ce qu'on appelle alors la lepenisation des esprits, qui va disparaître dans les prochaines années, doucement, tranquillement, quand le mal sera fait, que les esprits seront suffisamment lepenisés pour que plus personne ne s'aperçoive que c'est devenu une réalité. Mais pour l'instant, ses copains trouvent qu'elle ne s'engage pas assez. C'est vrai qu'elle ne chante pas l'international quand elle est saoule. Vrai qu'elle refuse de porter un drapeau rouge, noir, ou même les badges, les pins, les signes des manifs contre l'indifférence des pouvoirs publics face au sida. Elle a toujours poliment refusé d'afficher la moindre appartenance. On lui en veut un peu, on la traite parfois de dégonflée. Elle dit oui, peut-être. Elle ne peut s'engager qu'à un certain point. Elle n'a jamais pu tout à fait se convaincre qu'il fallait se fondre dans la foule, même si c'est le peuple de gauche, celui auquel elle dit appartenir. Mais au fond d'elle, elle n'appartient à personne. Elle essaie de s'appartenir en propre, et déjà c'est difficile. Il a fallu renoncer à pas mal de rêves. Elle a laissé de côté le manuscrit qu'elle écrivait, un roman. Elle y a renoncé parce qu'elle a choisi de tout donner à ses études, parce que sa façon, à elle, d'être révolutionnaire, c'est de faire que dans sa famille, au moins, une personne fasse des études, au moins une femme, pour une fois, qu'elle fasse un métier prestigieux. Elle se dit qu'écrire, ce serait trop beau, mais qu'être médecin, surtout chirurgien, ce serait très grand. Elle se dit que ce serait rompre avec cette fatalité qui aplatit sa famille, génération après génération. Elle ne pense pas en ambition, en réussite sociale. Elle ne pense même pas en termes de revanche. Elle pense en acte, en action. Elle pense que la réussite est un cadeau à faire aux siens. Elle pense à sa famille, son frère, sa sœur, ses parents et ses grands-parents. Faire des études, devenir chirurgien, non seulement ce serait extraordinaire pour elle, mais ça le serait pour eux tous. Alors chirurgien, et tant pis pour l'écriture. Son manuscrit, son roman est quasiment fini. Il est là. Elle se dit qu'il est peut-être beau, mais que c'est trop haut pour elle. Alors elle renonce. Parfois elle pense que si un jour elle a des enfants, elle les appellera par les prénoms des écrivains qu'elle aime, parce qu'ils lui ont si souvent donné la force de tenir quand la méchanceté autour d'elle se faisait trop violente, quand elle sentait qu'elle allait s'effondrer, qu'elle leur doit bien ça. Samuel, donc. Car il est son secret, son arme de résistance muette pour tout encaisser, l'idée qu'elle se fait de la beauté et du désespoir, de ce fil qui fait tenir les êtres debout. Samuel, oui, ce secret qu'elle a et qui l'aide aussi à continuer ses études et surtout ce manuscrit, ce roman qu'elle n'ose pas finir en 1993 et qui l'aide à continuer. Elle continue, il faut continuer, se dit-elle, et c'est en secret, sans le dire à personne. Elle ne fait pas vraiment de politique, c'est normal. Elle a dans son tiroir la seule arme réellement efficace contre la lepenisation des esprits, son roman. Il est tôt quand Sibylle se réveille. Ce matin, elle se sent complètement endolorie. Elle a l'impression d'avoir marché longtemps, que son corps est resté enfermé et qu'il a besoin de bouger pour retrouver de la souplesse. Elle sort avec difficulté de sa tente. La nuit, Sibylle se réveille souvent, presque toutes les nuits, vers 3 heures, et alors elle reste assise longtemps avant de se rendormir. Elle fume une cigarette ou deux. Depuis qu'elle a pris la décision de partir, elle fume 3 cigarettes maximum, histoire de ne pas encombrer ni ses bronches, ni ses bagages. Ça a été difficile, mais la motivation l'a aidée à quasiment arrêter de fumer et de boire. Alors, lorsque les rêves ont commencé, elle a pensé que c'était peut-être un effet de ce manque d'alcool ou de tabac, ou des deux conjugués. Au dehors, c'est un ciel brumeux.